à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 39. Une Heure en Série, je vous le rappelle, l'émission qui décrypte et analyse semaine après semaine toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et plateformes confondues. Ce soir, nous parlerons chemin de fer clandestin et fuite éperdue dans The Underground Railroad sur Prime, conflit de famille et super-pouvoir dans Jupiter's Legacy sur Netflix, et enfin mensonges d'État et irradiation mortelle dans Tchernobyl sur M6.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir, les candidats malheureux de l'Eurovision. Ah, ils ont essayé régulièrement de placer leur chansonnette et malheureusement, ils n'ont à ce jour jamais défendu les couleurs de notre beau pays. J'ai nommé Poupée de Cire, Poupée de Son, Marjolaine Boutet de Phosphore, bien sûr.
Voilà, voilà.
Isabelle Abadanel, Waterloo, que vous chantez comme personne, bien évidemment, dans bandapart.fr. Et puis nous avons Benoît Lagan, très toulousain ce soir, oui. Puisque j'ai cru comprendre que vous fêtiez une petite victoire.
Bah oui, bien sûr.
Vous êtes toujours dans le 5-7 de Mathilde Munot, oui. Toujours dans Télématin, et dans quelques instants, dans la mêlée, évidemment, ah de oui. Une Heure en Série. Méfiez-vous, elles n'ont pas l'air comme ça, mais elles se battent très très bien. Nous avons du courrier, et j'en ai un que je trouve absolument savoureux, qui nous vient de Rémi Penaud, qui habite Le Mans. Elle faisait partie de l'équipe de basket de son lycée, et elle a marqué un but formidable. Je crois que c'est quelqu'un la semaine dernière à propos de Big Shot. Voilà, Isabelle Danel, c'est bien de se dénoncer. Moi je dis c'est bien. Commentaire de Rémi Penaud, c'est à ce genre de détails que je sais que j'écoute un tel. Ça veut dire qu'on n'est pas très doué en sport. Ok.
Elle a marqué un panier. Oh.
Ne changez rien, nous dit-il, ou si peu, amicalement. Merci, cher Rémi. Oui, effectivement, je n'avais pas vu. Hein.
Moi alors, non moi, plus,
je suis comme vous là-dessus. Et alors là, je tiens à vous dire que tremblez, brave Jean, parce que je vais peut-être inviter cette personne un de ces jours dans l'émission. Mm-hmm. C'est Thomas Imps, ou Ems, je ne sais pas très bien, j'espère ne pas trop malmener la prononciation de son nom. Dans la série, ils sont encore plus méchants que vous pouvez l'être. Je vous lis son courrier, ouais. Qui est très long, qui est très bien écrit, je n'en prendrai qu'une partie hélas. Bon, il va falloir qu'on parle de Big Sky, parce que je vous vois bien, vous cherchez à vous faire petit, enthousiaste que vous étiez, à nous le conseiller. Mais maintenant qu'on a vu l'oiseau, on peut quand même se dire que c'est une des plus belles catastrophes de mémoire récente. Non. Entre le jeu d'acteurs catastrophique, les rebondissements grotesques, les rivières de Botox, les séquences lunaires, ah, la protagoniste trans qui enjaille une soirée funéraire country sous le regard bienveillant et bovin de spécimens de l'Amérique la plus réac inimaginable, et le message politique d'autodéfense plus que douteux, on est gâté, cerise sur le gâteau, quand on vous apprend que ce dépliant sur le Montana a été tourné partout, sauf dans le Montana. Voilà. Et bien, je l'aime d'amour. On est d'accord, il est extrêmement doué. Ça continue derrière, Disney Plus en prend plein la gueule aussi. Donc on vous aime, Thomas. N'hésitez pas à nous écrire et à nous rendre visite un jour. Serez-vous aussi brillant que lui à propos de The Underground Railroad?
On va essayer.
J'avais dit que j'essayais d'éviter les titres américains. C'est une série américaine en 10 épisodes, disponible sur Prime et adaptée du roman éponyme de Colson Whitehead, roman couronné en 2017 du prix Pulitzer. The Underground Railroad nous replonge dans l'Amérique de l'esclavage, quelques années avant la guerre de sécession, une époque où lacérer un homme de couleur, puis le brûler vif, était considéré comme une leçon, une forme d'éducation. Une époque où les Blancs réduisaient les Noirs à l'état d'animaux juste bons à exécuter les tâches les plus harassantes. Une époque où les Blancs exerçaient leur pouvoir hégémonique, la Bible d'une main et le fusil de l'autre. César, jeune Noir ayant appris à lire secrètement, et Cora, jeune femme épuisée physiquement et mentalement par ses conditions de vie, décide de fuir leur plantation et y parviennent grâce à un réseau ferroviaire souterrain qui a vraiment existé historiquement, non ?
Non, non,
bon,
non.
On en discute pendant le débat.
Oui.
Mais dans cette quête désespérée de liberté, ils sont traqués par un redoutable chasseur d'esclaves.
Here, I saw a dappled wonder settling across the fields, hovering on angel wings, brandishing a blazing shield.
Where do they go? The ones that run away and never return. There is nothing here but suffering. Pain and suffering. It is time to go.
Girl in that bulletin is wanted for the murder of a child.
Man lost my mom, then me. Ain't no way he ever given up on finding me.
The Underground Railroad est une série signée Barry Jenkins, l'auteur du multi-oscarisé Moonlight. Elle est produite par Brad Pitt et Colson Whitehead, donc l'auteur du roman. Et elle réunit dans les rôles principaux, tous au même doux, Chase Dillon et Joel Edgerton, que l'on a pu voir entre autres dans Zero Dark City, et Boy Erased, dont il était également le réalisateur. C'est peu dire que la presse est extatique, sublime et suffocant pour le Figaro. La densité et l'ambition de cette série en font une œuvre passionnante pour Libération. Et pour Télérama, c'est simplement époustouflant avec 3T à la clé, ce qui est assez rare. Marjolaine.
Ah oui, je partage tout à fait l'enthousiasme. Donc c'est une œuvre vraiment de réalisateurs, hein, Barry Jenkins, Moonlight, If Beale Street Could Talk, réussit à rendre la moiteur et la chaleur du sud des États-Unis par un travail tout à fait remarquable sur le son et évidemment sur la lumière. Et puis, évidemment, c'est porté par l'actrice africaine Toussaint Mbédou. Et à travers son exode, à travers les différents états du sud esclavagiste, on commence en Géorgie, puis on va en Caroline du Sud, Caroline du Nord, en Tennessee, dans le Tennessee, avant de s'ouvrir vers l'Indiana et de quitter enfin les futurs états confédérés. Et on comprend surtout à travers cet exode les ravages d'un crime contre l'humanité, aussi long que l'esclavage, sur la société américaine, au niveau collectif, parce que ça touche les Noirs et ça touche les Blancs, mais aussi sur ses victimes et ses rescapés au niveau individuel, psychologique, et la difficulté de sortir de tout ça. La mise en scène mêle cruauté et poésie avec de très nombreuses scènes oniriques, dont le fait d'avoir matérialisé donc cette voie ferrée souterraine qui était en réalité un réseau d'évasion clandestin qui reprenait donc le vocabulaire des voies ferrées, mais qui se faisait essentiellement à pied. Et là, on a une vraie ligne de chemin de fer, luxueuse, souterraine, qui
à l'épisode inscrit... où on reconstitue cette gare souterraine,
c'est extraordinaire,
surréaliste, extraordinaire en termes de décor et d'éclairage.
Et ça fait entrer en fait l'histoire de l'esclavage, je trouve cette série, ça en fait un grand récit américain, qui s'inspire tout à la fois de la Bible, de la Déclaration d'indépendance, qu'on entend à de nombreuses reprises dans son intégralité, et du western, et qui donne toute sa place aux Afro-Américains, et particulièrement aux femmes de tous âges, et des relations qu'elles tissent entre elles, et qui sont finalement bien plus importantes que celles qu'elles ont avec les hommes, même noirs, qui sont toujours teintées de la peur d'être violées ou malmenées, et je trouve ça absolument bouleversant.
Et vous l'avez très bien défendu, Benoît Lagan.
Oui, je suis très enthousiaste aussi par rapport à cette série. Jamais, en fait, l'expression « espérer voir la lumière au bout du tunnel » n'a eu autant de sens qu'en regardant cette histoire. Et effectivement, tout ce qu'a dit Marjolaine par rapport à la mise en scène est extrêmement juste. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'elle vient s'ajouter à d'autres séries dont on a parlé ici même, comme Small Axe, comme Lovecraft Country, Them, encore récemment, également sur Amazon.
C'est très bien que le sujet inspire les séries de plus en plus.
Mais sauf que dans la précédente série dont on avait parlé, Zem, qui utilisait l'horreur, la violence était omniprésente au point qu'à un moment donné, le discours disparaissait. Et là, ce que je trouve très fort dans cette série, c'est que l'horreur est là, mais qu'elle est toujours contrebalancée par les mots, par les sons, par les dialogues et par surtout cette histoire qui fonctionne extrêmement bien à série. Et c'est pour ça que c'est certes très cinématographique, mais que c'est une grande série parce que le récit de la fuite, le récit de l'Exode, c'est parfait pour les séries. C'est pas pour rien qu'il y a eu Le Fugitif un jour à la télévision américaine. Donc, on suit effectivement ces personnages, on les voit subir étape par étape, on voit la lumière, et puis cette lumière qui s'éteint tout à coup, parce qu'en fait, les Blancs ne sont pas si positifs que ça. Et ce que j'aime aussi, c'est ce personnage dont on parle moins dans toutes les critiques, c'est le personnage du chasseur d'esclaves, qui raconte dans toute l'histoire, il y a un épisode central, le cinquième je crois, autour de lui et de sa vie, et où on comprend tout le mal-être de l'homme blanc américain, juste dans cet épisode. C'est vraiment fantastique et fabuleux.
Alors, est-ce que je vais peut-être avoir quelqu'un qui, comme moi, partage un petit peu une légère déception? Je trouve ça formidable en termes de sujet, de développement, d'écriture. La mise en scène est un peu emphatique, elle est un peu poseuse et elle est un petit peu omniprésente. Et moi, elle m'a régulièrement sorti un peu de la série. Isabelle, bah, non
je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous sur les premiers épisodes. Je trouve que ça s'améliore beaucoup après. Effectivement, moi j'aime de Barry Jenkins l'invention émotionnelle de Moonlight et le classicisme émouvant de Beale Street. Et là, il a voulu mélanger les deux. Et par moments, je trouve que il a sans doute eu presque trop de moyens Il y a des grues, il y a plusieurs caméras,
et on sent, race.
On sent une pléthore par moments d'axes, de longueurs de plans, etc., qui perdent un peu l'œil, et je trouve ça dommage. Néanmoins, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et je trouve que c'est une très très grande série. C'est un très grand livre, il faut le dire. Aussi, clairement, c'est un très très grand livre. Et moi, j'aime dans le livre une simplicité, une fluidité d'écriture, qui, je trouve, manque un tout petit peu à la mise en scène, parce qu'elle est un tout petit peu, comme vous l'avez dit, en poulet, en fatigue. Mais néanmoins, cette odyssée est vraiment un témoignage essentiel, et il y a une terrifiante réalité qui nous est montrée, et qui, non seulement on voit la douleur, les corps, la violence, les ravages que ça peut être, mais on est aussi dans la tête.
Psychique, hein, dans le personnage de Cora, il y a
On est dans la destruction mentale, effectivement, de ces personnages, de Cora en particulier, mais pas que d'elle. Et ça, c'est très très important parce que c'est remarquablement fait. Et c'est pas là pour le coup, c'est pas emphatique. Là pour le coup, c'est pas misérabiliste. C'est vraiment une espèce de réalité brute de ce que c'est que cette violence-là, que cette cruauté-là, que cette crudité-là, de cette puissance invraisemblable prise par les blancs sur les noirs. Et ne serait-ce que pour ça, avec les petits bémols que j'ai comme vous, je trouve que c'est une série à regarder. C'est une série difficile, hein, c'est une série douloureuse,
éprouvante. Ouais.
On la binge-watch pas comme n'importe quoi, c'est vraiment, il faut prendre son élan, les épisodes sont très longs, ça fait mal, mais je pense que c'est vraiment une série très importante et très nécessaire.
On n'empêchera pas Benoît d'avoir le mot
non,
de la
mais,
fin.
Non, mais juste veux dire que je suis d'accord avec ce que vous dites sur, notamment à un moment donné, trop d'esthétisme parfois, tu as un petit peu le propos, effectivement. Mais la série, dans sa globalité, est tellement forte et utile et belle qu'on excuse,
ça aide
on
à l'émotion. Ça aide à l'émotion et ça insiste aussi sur le fait qu'il s'agit d'une fable et qu'on est dans l'onirisme, et ça n'empêche pas la véracité des sentiments et du discours que ça donne.
Et moi, je suis obligé d'insister sur le fait que le débat est terminé. C'est juste sublime. C'est nécessairement Nina Simone, bien sûr, dans To Be Young, Gift and Black. Un titre sorti en 1969, quelques mois avant son album Black Gold. Une chanson qui fut un immense succès, considéré pour beaucoup comme l'hymne de la lutte pour les droits civiques. Les paroles parlent d'elles-mêmes. Dans le monde entier, tu sais, il y a 1 million de garçons et de filles qui sont jeunes, doués et noirs. Un monde vous attend, le vôtre et la quête qui vient de commencer.
France Inter. Une heure en série.
Petit conseil littéraire, je suis pas allé chercher très loin le conseil littéraire, mais en même temps, il était immanquable, bien sûr. Nickel Boys de Colson Whitehead, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. J'avais envie de vous parler depuis sa parution, il y a donc quelques mois, soyons honnêtes, de ce magistral nouveau roman de Colson Whitehead, auteur donc de Underground Railroad, dont nous venons d'évoquer l'adaptation sérielle. Nickel Boys, signalons-le, fut pour son auteur l'occasion de recevoir pour la deuxième fois l'un des prix les plus importants décernés à un écrivain aux États-Unis. Le Pulitzer, je crois qu'ils ne sont que quatre avec lui à ce jour, dont William Faulkner, c'est pas mal comme famille. Mal. Après l'Amérique esclavagiste, Whitehead nous plonge dans celle de la ségrégation. Nous sommes au début des années 60 et Elwood, ado sans histoire, est victime d'une arrestation abusive qui lui vaut d'être renvoyé dans un collège où, sous couvert de rééducation, l'enfant, comme ses potes d'infortune, va subir violence et humiliation. Et pire encore. Adieu donc les rêves d'Elwood de suivre des études, puisque dans cette usine à déclasser la population noire, il va apprendre à devenir un citoyen de seconde zone, privé de ses droits et de ses rêves. Un roman de désapprentissage qui se clôt sur un final qui vous en serre la gorge, porté par une écriture sage comme un cri de révolte, enfin libéré, ce qu'Isabelle disait très justement sur l'écriture de Colson Whitehead tout à l'heure. Mais ce n'est, comme toujours avec cet auteur, pas simplement un roman de simple reconstitution, c'est une œuvre inspirée de faits réels qui utilise le prisme de la littérature et du romanesque tragique pour disséquer dans le passé les raisons de la colère du présent, ainsi que les origines de la crise de race que traverse encore aujourd'hui les États-Unis. Un diagnostic terrifiant qui embrasse tout le panorama de l'histoire des Noirs américains pour mieux tenter de comprendre les iniquités d'aujourd'hui. C'est brillant et implacable. C'est juste un immense livre que je vous recommande. Nickel Boys de Colson Whitehead aux éditions Albin Michel. Juste avant le deuxième débat, Isabelle, vous avez employé l'expression tout à fait, alors évidemment, les gens qui adorent les séries télé la connaissent, binge-watcher tout à l'heure à propos donc de Underground Railroad. Vous nous expliquez en deux mots ce que c'est?
Bah, c'est tout manger d'un coup, c'est de la gourmandise, binge-watcher.
Ah, c'est comme avec la pizza, par exemple, ou la forêt noire, quoi. Voilà, je ne m'arrête pas tant qu'il reste une bouchée. Vous serez-vous arrêté avant la fin pour Jupiter's Legacy, une série américaine de 8 épisodes disponibles sur Netflix? Avec un petit point d'interrogation ironique. Une saga de super-héros, chouette, tellement originale, qui débute de nos jours et remonte jusqu'en 1929, car c'est au lendemain du krach boursier et de la Grande Dépression que s'est formé un groupe de justiciers dotés de super-pouvoirs. Depuis, ces défenseurs de l'ordre et de la loi passent leur temps à lutter contre des super-vilains. Bah ouais, c'est un peu le boulot des super-héros quand même. Hein. Mais nos héros fatiguent et il est peut-être temps pour une nouvelle génération, dont le fils de The Utopian, sorte de leader de cette ligue de justiciers, de prendre la relève. Alors néanmoins, pas évident de trouver sa place dans un monde régi par un code de l'honneur. On ne tue pas un ennemi, on le neutralise, qui semble avoir fait son temps et ne plus vraiment répondre aux menaces qui nous entourent. Mélangeant les chronologies avec pour limite d'engoncer le récit, de l'étouffer sous le poids de cette construction en mille feuilles temporelles, vous comprendrez que je me suis un petit peu emmerdé, la série raconte les origines, les doutes délétères, la fin des vidéos et la transmission des valeurs héroïques, avec une forte impression déjà vue, comme si la série piochait de façon extrêmement ostentatoire dans les comics dont elle s'inspire.
Tu te rappelles sur l'île ? Tout ce qu'on a dû affronter pour gagner nos pouvoirs.
Quatre-vingt-dix ans. Et qu'est-ce qu'on a fait ?
On a apporté un tas de choses, tu le sais.
Il était comment, papa, plus jeune ?
Tout glissait sur lui, il était insouciant.
L'homme que je connais était jamais là quand j'étais enfant. Il fallait qu'il sauve le monde.
Brandon, Chloé, tout ce que vous faites a une incidence sur notre famille. C'est vous qui devez représenter un idéal.
Personne n'est à la hauteur de cet idéal. Pas même papa.
Ils sont loin d'être prêts. Je me bats tous les jours pour éviter que cette famille ne s'effondre.
Eh bien, ça ne fonctionne pas.
Jupiter's Legacy, une série créée par Stephen S. DeKnight, auteur sur Buffy et Smallville, et showrunner, sur la série Daredevil. J'essaye de mettre au diapason de cette bande-annonce pour la moins virile et martiale, une série à laquelle donc ont participé également Mark Millar et Frank Quitely, auteur du comic éponyme. Avec dans les rôles principaux Josh Duhamel, que l'on a vu dans les séries 22, 11, 63 et Battle Creek, Leslie Bibb, vu dans American Wife, ainsi que, American Housewife, voilà. Et j'y arrivais, ainsi que Ben Daniels, qui figurait au générique de The Crown et L'Exorciste. Alors, un seul extrait de presse pour le plaisir. C'est dans les Arocs. Une énième déclinaison de l'héroïsme en crise dont les costumes moulants semblent avoir été chinés en super fripe et les effets visuels déterrés de la corbeille à rush d'un blockbuster paresseux. Ne riez pas, Benoît, c'est à vous.
Oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de lire de la part des Arocs. C'est qu'il y a un problème premier dans une série de ce genre, c'est qu'on a envie d'avoir des effets spéciaux qui ont de la gueule et on a envie d'avoir des personnages qui sont dans des costumes auxquels on croit. Et là, déjà, le problème, c'est que jusqu'à leur coupe de cheveux, on n'y croit pas. Donc ça, c'est la première entrée visuelle dans l'univers qui est compliqué. Ensuite, quand on s'attache à l'histoire, on voit que ça n'invente rien, l'histoire de l'héritage. Vaut mieux aller voir Falcon et le soldat de l'hiver ou The Boys dans des genres très différents, mais où qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces deux séries-là, elles apportent quelque chose de nouveau malgré tout dans le récit, alors que là, il n'y a rien de neuf. Alors on joue avec les codes, on joue au gloobie-boulga. Alors ça pourrait être rigolo. D'ailleurs, à un moment donné, ils sortent la réplique « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Avec un petit sourire en coin. De temps en temps, ici ou là, on joue avec l'humour. Pas assez.
C'est tellement voyant, de temps en temps, ils peuvent pas faire autrement. Pas quand assez. Même.
Le problème, c'est ce que vous dites.
On a le cerveau qui est en fauteuil roulant. Merci.
Oui.
Enfin, voilà.
Non, mais justement, c'est ce que vous dites, Xavier. C'est extrêmement voyant.
Professeur
Xavier,
s'il vous plaît.
Tout est extrêmement expliqué. C'est-à-dire qu'on nous ressort en longueur d'épisode la grande théorie. L'épisode le plus comique dans l'histoire, c'est au milieu de la série où carrément on a notre héros Sheldon, qui a un nom d'ailleurs d'un personnage beaucoup plus drôle, qui se retrouve chez son psy. Et voilà. Et là, ça nous donne toute l'explication. Et puis l'épisode un peu après, on nous explique comment ils sont devenus super-héros. Et alors là, on a du Indiana Jones en moins bien, on a du Jules Verne en pire. Enfin voilà. Et au final, heureusement qu'il y a l'invention du 1,5 rapide sur Netflix pour pouvoir aller jusqu'au bout quand même des 8 épisodes.
Je suis obligé de dire que, oh non Benoît, vous êtes un journaliste professionnel, ça ne se fait pas. Mais on regrette qu'effectivement, il n'y ait pas la fonction par deux. Hein. Isabelle.
Mais moi, j'ai tout bien regardé. Et donc,
allez, nous aussi.
J'ai appris des tas de choses sur la vie des super-héros, quand même, notamment sur leur vie sexuelle. Je trouve que jusqu'à présent, c'était un peu passé sous silence. Et là, on découvre qu'eux aussi font l'amour debout, tout habillés, contre les murs de leurs vastes appartements. Et comme ils sont très très forts, ils fracassent les murs. Et donc, ça fait des gros trous et des gravats partout.
Mais oui, ils n'ont plus de lit, ils ont tous fracassé aussi, donc c'est normal.
On découvre aussi que parfois, quand on est super-héros, on est obligé de s'arrêter en plein coït parce que tout en besognant madame avec son super pénis, on a, avec sa super oreille, détecté des anomalies sur la planète Mars.
Ça, c'est très drôle.
Et ça, c'est un super prétexte en carton quand même, parce que moi, si je suis la dame, je lui colle une super mandale. Donc voilà, c'est ça la série. C'est assez affligeant. Effectivement, sur les costumes, au début, on a un peu l'impression que c'est les Power Rangers.
En moins bien. J'adore les Power Rangers.
En bien pire. Après, c'est la famille Samson. Ça commence quand même par une réunion de famille autour du Bénédicité. Et on sent bien tout de suite que ça va être beaucoup moins rigolo que chez les Simpsons. Enfin voilà, c'est affligeant, mais on a tout regardé, on a tout subi. Et on se demande pourquoi ça existe. Et en plus, apparemment, ça cartonne. Donc...
Alors, avis aux futurs téléspectateurs, si au bout du premier épisode vous croyez avoir deviné qui est le méchant,
vous
avez trouvé, rassurez-vous, il n'y a pas l'ombre d'une surprise, Marjolaine.
Effectivement, moi, quand dans le premier épisode j'ai vu le super-héros donc, qui a des pouvoirs de mentaliste mettre ses doigts sur ses tempes et prendre l'air très plisser les yeux comme ça pour lire dans le cerveau des autres gens qui étaient autour de lui, je me suis dit. Mais est-ce que ce serait une parodie ? Je trouve que ça manque incroyablement d'humour. Parce qu'effectivement, ça pourrait aller dans le ridicule et ça pourrait être intéressant. Mais non, parce que ces perruques sont ridicules. L'espèce de double chronologie qui, sur un siècle quand même, parce qu'on nous balade donc de 1929 à aujourd'hui, avec des super-héros qui ont vieilli au mieux de 20-30 ans, maximum, et qui se trouvent parents de jeunes millennials complètement paumés. Alors on a du coup des vieux boomers et même des parents de boomers moralisateurs, on n'est plus chez nous, ma bonne dame, le bien, le mal, tout ça, ça n'a plus de valeur. Et pendant ce temps, les enfants qui sont instagrammeuses, influenceuses, mannequins, tout ce qu'on veut, ou cambrioleurs, les personnages n'existent pas. Les intrigues sont totalement téléphonées. On a compris ce qui allait se passer dès le début. Et même cette histoire de transmission entre le père et le fils, eh ben, ça n'avance pas d'un iota en 8 épisodes qui sont interminables. Et on est quand même très très en dessous de Watchmen qu'on a l'impression de voir à chaque fois qu'on se retrouve dans les années 30. Et même pas au niveau de The Boys. Donc voilà, j'aurais aimé au moins rire d'un tel spectacle, mais je suis juste affligée.
Mais à ce tel niveau d'emprunt, c'est plus de l'hommage, c'est du plagiat quand même.
Ah bah hein. Oui, complètement.
Parce qu'effectivement, on est très au premier degré. Et donc voilà, bon, bah, il reste pas grand-chose. Je crois que tous les super-héros de cette série ont été vaincus par les trois voix pourfendeuses de cette émission. Je me suis dit à un moment, oh là là, est-ce que vraiment je la programme ? Certes, c'est un événement. Et en même temps, vous entendant, je me suis tellement régalé que oui, finalement, je crois que j'ai bien fait. C'était ce qu'il en reste, Jupiter's Legacy sur Netflix.
You might not want to lose your power.
Your Power par Billie Eilish. Une intro qui vous colle d'emblée à la peau pour un titre qui s'envole dès que la voix de la chanteuse californienne s'empare du texte de cette ballade qui chante la solitude et l'affliction, mais aussi la révolte, le texte évoquant l'impunité de ceux qui commettent des abus de pouvoir et la culpabilité de celles et ceux qui en sont les victimes.
France Inter. Une heure en série.
C'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan, galvanisé par l'équipe, par la victoire de l'équipe de Toulouse, bien sûr. L'effet miroir, je le rappelle, l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et aujourd'hui, en écho au fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, vous revenez sur un épisode de la saison 6 de la série à la Maison Blanche, centré justement sur l'organisation d'un sommet de la paix à Camp David. À Camp David, je vais y arriver, entre Israéliens et Palestiniens.
Oui, Xavier. Donc, résumé des épisodes précédents à la fin de la saison 5 de The West Wing, lors de la visite d'une délégation américaine dans la bande de Gaza, un attentat a lieu. Deux parlementaires américains et un amiral meurent dans l'explosion. Et Donna, l'assistante de Josh, le chef de cabinet adjoint du président Bartlett, qui fait partie du voyage, est très grièvement blessée. La question qui se pose alors au président est de savoir comment répondre à une telle attaque. Faut-il déclarer par vengeance la guerre à tout le Proche-Orient ou faut-il en profiter pour tenter de relancer le processus de discussion entre Israéliens et Palestiniens afin de ramener plus de paix dans la région. Alors au sein du staff de la Maison Blanche, personne n'est vraiment d'accord. Il y a les pro-israéliens, les pro-palestiniens, les va-t-en-guerre, les défenseurs de la paix. Le président Bartlett, qui a déjà un prix Nobel d'économie en poche, vise peut-être ici un prix Nobel de la paix, comme le dit un de ses conseillers sous forme de boutade. Car Bartlett, vous vous en doutez bien, n'est pas un va-t-en-guerre. Il préfère avant toute action militaire répondre d'abord par la diplomatie. La discussion est si possible le plus discrètement. Et c'est ce que démontrent brillamment deux épisodes extrêmement bien écrits par le producteur scénariste de la série John Wells. Aaron Sorkin, le créateur de la série en saison 6, ne fait plus partie de l'aventure. Et après plusieurs coups de fil et de nombreuses négociations résumées dans le premier épisode de la saison 6, donc avec beaucoup de tension et de profondeur, le sommet à Camp David peut se dérouler dans l'épisode 2, non sans difficulté lui non plus, comme en témoigne l'extrait que je voulais vous faire écouter ce soir. Nous sommes donc à Camp David, la résidence de vacances du président américain, un lieu chargé d'histoire où en 78, le premier traité de paix entre Israël et l'Égypte a été signé sous Jimmy Carter, ou encore celui de juillet 2000 entre Ehud Barak et Yasser Arafat. Nous sommes donc dans la série en 2004 et le président Bartlett a convaincu les deux parties de se réunir, le premier ministre israélien Zahavi et son homologue palestinien Farad. C'est le premier jour des discussions. Il propose aux deux responsables l'ordre des thèmes à aborder lors de ce sommet qui durera une semaine.
Premièrement, la sécurité pour Israël, après le retrait des territoires occupés.
Nous serons obligés de maintenir une présence militaire dans la vallée du Jourdain.
Quel genre de message adressez-vous à mon peuple ?
S'il vous plaît, excusez-moi. La discussion de ces questions relève des sous-commissions. Nous devons seulement en définir les sujets. Merci. Deuxièmement, la disposition des implantations et les territoires qui leur sont assignés. Troisièmement, le droit au retour des réfugiés.
Non, ce n'est pas un droit au retour. C'est une revendication au retour.
Quatrièmement, quels moyens l'autorité palestinienne compte-t-elle employer pour démanteler les groupes terroristes ? Ça fait quatre sujets à débattre. Je crois qu'on peut aller au cinéma maintenant.
Que fait-on pour Jérusalem ?
Je pensais aborder la question de Jérusalem quand nous aurions
fait quelques progrès. Israël n'abandonnera jamais le contrôle de Jérusalem.
Jérusalem est au centre de nos préoccupations.
Monsieur, je vous en prie. J'ai engagé ma propre crédibilité et la crédibilité des États-Unis en suggérant, de façon peut-être inconsidérée, que les Israéliens et les Palestiniens sont des gens raisonnables et qu'ils souhaitent au moins tenter de résoudre leurs différends pacifiquement. Alors personne ne partira après seulement une petite heure.
Bartlett réussira-t-il à faire signer un accord de paix ? Je vous laisse revoir à la série, toujours disponible d'ailleurs sur MyCanal pour en savoir plus. Une série et 10 épisodes qu'il faut revoir, je pense, en 2021, tant elle est encore d'actualité. Au lendemain de cet accord fragile de cesser le feu entre Israël et le Hamas, et que Joe Biden a salué, en bon président démocrate et moins va-t-en-guerre que son prédécesseur, il est intéressant d'entendre ce que racontent en fait ces épisodes de The West Wing, qui rappellent donc à quel point dans ce type de conflit, travailler à une sortie de crise par la négociation et la diplomatie, c'est toujours plus compliqué, mais aussi plus vertueux que de répondre par les armes. Joe Biden, en saluant en particulier le travail mené par les Égyptiens pour arriver à ce cessez-le-feu, a déclaré que son administration poursuivrait, je le cite, « une diplomatie discrète et infatigable, tiens, comme Bartlett, pour aller vers la paix. Je suis convaincu que nous avons une vraie opportunité d'avancer et je m'engage à travailler en cette direction », a-t-il déclaré. Qui sait peut-être qu'après avoir vu pendant 4 saisons la série réalité Donald Trump à la Maison d'Arc, à la Maison Blanche, Joe Biden s'est dit qu'il pouvait sans souci se placer clairement dans les traces et le sillon du président de série Bartlett, le monde ne s'en portera pas plus mal.
En tout cas, mille merci pour cet excellent effet miroir. Cher Benoît, une chronique que l'on peut réécouter en podcast ou en rediffusion dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Vous êtes bien dans Une Heure en Série sur France Inter avec ce soir Marjolaine Bouté, Isabelle Danel et Benoît Lagan. Elles sont en très grande forme. Troisième débat, alors là ça va un petit peu casser l'ambiance, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Tchernobyl, série américaine en 5 épisodes sur M6, diffusée à partir du 27 mai. Arrivée sur la 6e chaîne, comme diraient mes parents, de l'une des séries majeures de ces 5 dernières années. Série qui avait remporté à l'époque 4 Emmy et 2 Golden Globe lors de sa sortie en 2019 et dont respectivement Marie Sauvion lors de sa prime diffusion sur Canal, puis Christine Haas lors de sa sortie en DVD, nous avait déjà vanté les immenses mérites. L'arrivée de Tchernobyl sur une chaîne généraliste est l'occasion immanquable pour nous d'évoquer cette reconstitution hyper réaliste, atteignant des sommets au tensiomètre de l'anxiété de l'une des plus grandes tragédies nucléaires du XXe siècle. Rappel des faits, le 26 avril 1986, une explosion secoue la centrale Lénine située à proximité de la ville de Pripyat. Entre inconscience et déni, entre volonté des autorités de minimiser la gravité de l'accident et abandon à leur sort des populations civiles, l'URSS, dans toute la splendeur d'un immense mensonge d'État, s'avère incapable d'endiguer cet apocalypse.
Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu, comme d'habitude.
Une série exemplaire, glaçante et traumatisante, créée par Greg Mazin. Alors, scénariste, c'est quand même étrange au cinéma, de Scary Movie, Very Bad Trip, ainsi que Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est pour vous dire que ça n'a pas beaucoup de rapport avec la série dont nous allons parler dans quelques instants. Une série, donc, Tchernobyl, pour laquelle il a remporté l'Emmy Award du meilleur scénario, très mérité, et qui réunit entre autres Jared Harris, Stellan Skarsgård et la toujours formidable Emily Watson, que j'adore. Mais je vous aime tout autant, chère Isabelle, et je vous cède la parole à propos de Tchernobyl. Essayez de nous faire rire comme tout à l'heure.
Oui, bah ça va être plus difficile effectivement, parce que c'est épouvantable, c'est totalement réaliste, vous l'avez dit, c'est effrayant et c'est absolument captivant. C'est une série très documentée, rien ne nous est épargné de l'horreur des conséquences immédiates et futures. Et moi, je l'avais vue à l'époque, et la revoir là, aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, après ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, parce que je trouve que, quel que soit le domaine nucléaire ou viral, le processus est toujours le même, finalement.
C'est très juste.
C'est-à-dire que de la part des autorités et des gens responsables, il y a la volonté de minimiser, vous l'avez dit, de biaiser, de contourner, avant de prendre la mesure de l'ampleur du désastre. Qu'y a-t-il de pire que les mensonges ? C'est vraiment la question qui hante toute la série et qui la clôt, puisque c'est la dernière phrase du dernier épisode. Et c'est vraiment... L'écriture de Craig Mazin est incroyablement fouillée. Alors, je ne sais pas comment il a fait, étant donné son parcours avant, mais ça prouve que...
Comme quoi ?
Ça prouve qu'on peut être très, très divers et variés dans ses intérêts de fiction. Et donc, c'est fouillé, c'est efficace, c'est très documenté, je l'ai déjà dit. Alors, il a un peu simplifié des choses, et notamment ce très beau personnage de femme qui est joué par Emily Watson et un composite de plusieurs scientifiques qui ont travaillé avec le personnage principal joué par Jared Harris. Oui, ils le disent à la fin.
C'est honnête, ils le disent à la fin.
Donc oui, tout est vraiment très très clair. Alors c'est marrant, les Soviétiques n'ont pas été tout à fait d'accord avec la version et prétendent, mais déjà depuis 3 ans, qu'ils vont nous faire la contre-version et qu'il va y avoir une série qui dira leur vérité sur Tchernobyl. On a quand même la sensation, quand on regarde cette série, d'avoir vraiment une vraie réalité qui nous est montrée. Et tu as raison de le dire, Benoît, il y a vraiment tous ces cartons qui expliquent bien. On a des photos des vrais protagonistes. Et voilà, bon, c'est pas non plus très joyeux, et c'est pas, il y a que 5 épisodes, mais on peut les regarder tranquillement les uns après les autres. sans se précipiter dessus, parce qu'il faut supporter la difficulté que c'est, mais c'est incroyable, inoubliable pour certaines images et très très nécessaire.
Et vous l'avez dit, c'est captivant malgré l'horreur qui nous est imposée. Marjolaine.
Oui, à propos de la documentation, d'ailleurs Craig Mazin a un blog dans lequel il a mis tous les documents qu'il a utilisés, et au moment de la diffusion aux États-Unis, il a enregistré un podcast que je recommande aux anglophones, qui s'appelle The Chernobyl Podcast, et qui est toujours accessible, et dans lequel il explique sa démarche. Et c'est vraiment comme des bonus DVD qu'on avait au moment de la diffusion aux États-Unis et qu'on peut évidemment réécouter au moment de la diffusion en France sur M6, et qui explique vraiment comment il s'est emparé de cette histoire et de ce document pour en faire une histoire. Alors, moi je comprends un peu les réticences soviétiques dans la mesure où il s'agit de l'appropriation de l'histoire soviétique par les Américains. Et il en fait, et c'est pour ça que ça marche autant auprès du public, il en fait une histoire américaine. C'est-à-dire qu'il en fait une ode évidemment à la vérité, et c'est une série typique des années Trump, c'est ça c'est pour ça qu'il a choisi ce sujet, et c'est ce qui explique son grand succès. Et c'est aussi une série américaine parce que la vérité éclate lors d'un procès magistral dans le dernier épisode.
Ça, c'est formidable.
Et que c'est la valeur des individus qui est célébrée, l'héroïsme sacrificiel du peuple russe, alors que les rouages administratifs sont montrés comme quelque chose qui broie, et l'URSS comme un colosse au pied d'argile. Donc effectivement, je comprends que ça ait choqué les Russes de la Russie de Poutine. Malgré tout, ce qu'il faut dire évidemment, c'est que c'est superbement filmé et qu'il arrive à nous faire craindre un danger invisible, et que là aussi le travail sur le son est tout à fait remarquable. On a l'impression d'entendre ce nuage nucléaire qu'on ne voit pas et qui se répand dans la ville. Et l'épisode, le suicide sauvetage de l'épisode 3 est incroyablement, là encore, un travail de clair-obscur très très bien réalisé. Et dans l'épisode 4, toutes ces séquences autour du jeune liquidateur Pavel dans la zone sinistrée par l'explosion et complètement déserte, qui a engendré tout un tourisme de la catastrophe, et Tchernobyl est devenue une destination touristique. Enfin, vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vous la recommande absolument dès jeudi soir, donc sur M6.
Non, mais c'est absolument formidable. Très bonne analyse aussi de la mise en scène. Benoît.
Oui, alors
Beaucoup de choses ont été dites déjà.
Oui, beaucoup de choses ont été dites. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pourrais moi déjà quand même saluer M6 de diffuser gratuitement cette série, parce qu'elle est utile, elle est forte et qu'il faut la voir, et que vu le succès qu'elle a eu, le retentissement qu'elle a eu, elle pourrait se dire que ça sert à rien de la diffuser. Si, c'est important de la diffuser. Quelle que soit son audience, ce sera important. Donc bravo M6 quand même de faire ce travail-là. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, pour essayer de trouver autre chose à dire sur Tchernobyl, c'est que pour moi, c'est aussi un hommage au genre. Et que le créateur soit vienne de Scary Movie et du genre, finalement, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, le premier épisode est vraiment un film catastrophe, le deuxième, un film horrifique, le troisième, un film à suspense, il y a le procédural à la fin, et il y a le thriller politique. Et il y a tout ça en 5 épisodes. Et moi, je trouve ça extraordinairement bien fait. Chaque épisode est construit presque comme un film de genre, tout en ayant au centre, sans oublier jamais, les 3 personnages principaux que l'on suit, qui sont admirablement interprétés, les 3, et où on voit au fur et à mesure des épisodes à quel point cet ennemi invisible, ces balles de qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui viennent toucher les corps, finissent par petit à petit toucher ces gens-là aussi dans leur physique. Et ça, je trouve ça extraordinairement bien écrit, bien filmé, bien fait. C'est effectivement à regarder en prenant le temps. Je ne sais pas comment M6 va les diffuser, mais voilà, il faut regarder ces épisodes en prenant son temps et en y réfléchissant, parce que ça dit aussi, effectivement, Isabelle a raison, beaucoup de choses sur notre monde aussi d'aujourd'hui et ce qu'on a vécu.
Et ça utilise le décor naturel, la forêt, les espaces, cette manière de continuer la tension alors qu'il ne se passe presque rien à l'écran.
Et
à travers juste
de la
des
ville.
Drones, comme ça, l'architecture de la ville, des images presque figées. C'est vraiment extrêmement bien pensé parce qu'il y a effectivement le temps de l'action, le temps de la sédimentation de cette histoire. Et en même temps, ce temps étrange, coupé justement de l'espace-temps que l'on regarde comme ça, qui vraiment imprègne le spectateur, j'allais dire, de façon très, très sensuelle, très charnelle et très organique. Et ça, c'est complètement réussi. On est tous d'accord, c'est une grande série. Ouais, redécouvrez-la. Découvrez-la si vous ne la connaissez pas. Tchernobyl sur M6.
Dans le flot de mes pensées qui se télescope, je distingue maintenant constant naze et je sens mon anxiété qui cogne à la porte, mais je sais plus comment faire face.
Monogramme par le groupe Magenta, un groupe héritier de Fauve, leur précédente formation et qui tient son nom du boulevard Magenta, je ne sais pas pourquoi je l'ai anglicisé tout à l'heure, où habite l'un des membres de son groupe, de ce groupe. Oui, j'avais envie, voilà.
Hein. Bah oui.
Alors, entre pop et électro, un titre et un album qui ne devait être au départ qu'instrumental, mais auquel ses auteurs ont ressenti le besoin de rajouter des textes pendant le confinement. Texte délicatement mélancolique, on vient de l'entendre, pour une musique étincelante de fausse simplicité, une harmonie que je trouve parfaite.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure d'un petit plateau télé. On a déjà bien servi, bien copieusement gâté nos auditeurs et nos auditrices ce soir, mais rajoutons-en une couche de bonheur, de plénitude et d'engouement avec Isabelle Danel, qui nous défend l'excellente série Mister Mercedes, diffusée sur Starzplay et Canal.
Oui, alors c'est 3 saisons depuis 2017, 30 épisodes en tout, et c'est créé par David A. Kelly, toujours lui, d'après la trilogie de Stephen King, Mister Mercedes, Finders Keepers et End of Watch. C'est donc l'histoire d'un psychopathe, rien que ça, qui fonce à bord d'une Mercedes volée dans une foule de chômeurs faisant la queue pour du travail. Il laisse des morts, des blessés, des traumatisés à vie. Et 3 ans plus tard, alors qu'il n'a toujours pas été arrêté, le policier qui le poursuivait, Bill Hodges, mis à la retraite et qui s'emmerde comme un gros rat dans sa tanière, reçoit des signes de lui via son écran d'ordinateur et son téléphone. Et il repart de plus belle dans son obsession. C'est de la bonne série classique entre polar et fantastique, dont l'intrigue ne vous lâche pas, mais surtout ce qui compte, ce sont les personnages. Les monstres sont monstrueux à souhait, presque trop parfois. Les autres, eh bien, ils se débrouillent comme ils peuvent avec leurs forces et leurs faiblesses. Et ce qui est beau, c'est que ce vieux loup solitaire de Bill Hodges, incarné avec toute sa présence bonhomme par l'épatant irlandais Brendan Gleeson, finira par faire famille avec une voisine plus âgée, qui commence d'abord par le draguer, elle s'appelle Ida, un jeune voisin noir et geek, Jérôme, qui lui donne un gros coup de main pour comprendre les arcanes d'Internet et des malwares, et une jeune autiste Asperger, Holly Giblet, malicieuse et attachante. Alors ces gens-là, bah, c'est quand même Holland Taylor vu dans Hollywood, Jarel Jérôme vu dans la série Dans leur regard et aussi dans le film Moonlight dont on a parlé tout à l'heure, et Justine Loupet de Succession et la fabuleuse Madame Maisel. Donc c'est un trio exceptionnel et tout ça fonctionne très bien avec une espèce de supplément d'âme, pas mal de chaleur et des kilotonnes d'ironie acide. C'est passionnant, c'est assez fou. La troisième saison se concentre sur la mort d'un écrivain à succès qui rappelle Stephen King. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est malin, brillant. Ça pose des questions essentielles, le mal, le bien, la justice, l'autodéfense. Et voilà, même s'il y a quelques petits excès, c'est à regarder absolument.
Je suis entièrement d'accord. Mister Mercedes sur Starzplay et Canal. Alors on ne quitte pas l'univers de David Ekeley puisque notre cher Malo Morcel, qui désormais maintenant s'occupe de la chronique DVD, a regardé pour nous les bonus d'une série dont nous avions déjà parlé ici, The Undoing. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que à vous lire et dans quelques instants à vous entendre, ça vaut peut-être pas la peine d'acheter le DVD.
Bah en effet, The Undoing, on pourrait dire, ou bien les bonus, ni fait ni à faire. Le coffret n'apporte absolument rien, pas un détail qui viendrait par exemple attirer notre attention de spectateur. On semble nous présenter par des titres à couleurs l'envers du décor de The Undoing et c'est tout comme la série assez vide à l'intérieur. Autocomplaisant, empli de oh, « il joue si bien » ou encore de « il est formidable » que c'est littéralement à nous donner le tournis et à nous donner aussi envie de les laisser sur le bas-côté de la route. Donc on cherche, on trouve le titre « Les 11 révélations de The Undoing », alors on se questionne « qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être des secrets de tournage hein, par exemple ?» Eh bien ce ne sont simplement que les présentations des personnages commentées par les acteurs, ils nous les décrivent hein, tout simplement. Alors autant le dire, les bonus nous donnent l'impression d'avoir été faits pour les spectateurs qui n'auraient pas compris un traître mot du show, et Dieu sait qu'il ne s'agit pas d'un scénario digne d'un film de Kubrick, bien loin de là. À force de voir Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland filmer avec leur caméra d'ordinateur, le Covid y étant sûrement pour quelque chose, débiter des compliments sur les uns et sur les autres, on est quand même à la limite d'un copinage exacerbé. Les créateurs ont même trouvé bonne l'idée que Nicole Kidman et Hugh Grant nous présentent la série. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais en tout cas on les retrouve en face à face de 3 minutes dans un canapé, en train de nous résumer presque la jaquette du DVD. Non, très franchement, il aurait été plus intéressant par exemple de nous montrer les coulisses et les maquilleurs qui pour le coup rendent à Nicole Kidman une apparence presque humaine. Alors voilà, vous l'aurez compris, on n'apprend rien, sauf selon les acteurs qu'il s'agissait de super partenaires et qu'il existait sur le tournage une superbe ambiance.
Je crois que nous l'avons contaminé, ça y est, il est doté comme nous d'un très mauvais esprit. Merci beaucoup cher Malo, une heure en série, c'est fini, on est un peu en retard, pardon. Merci à vous Isabelle, Marjolaine, Malo et Benoît d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écoutez, nous vous avons recommandé ou pas The Underground Railroad sur Prime, oui. Jupiter's Legacy sur Netflix, non. Chernobyl sur M6, oui. J'aime bien quand c'est clair comme ça. La semaine prochaine, nous évoquerons Mosquito Coast sur Apple TV et Maroni sur Arte demain soir 20h. Le masque et la plume consacrés à la littérature, une heure en série. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast dans quelques heures, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet, vous nous envoyez votre courrier. Il y a un compte Instagram, une heure en série officielle. L'émission a été réalisée comme toujours par Marie-Annick Rimbaud, musicalement programmée par Muriel Pérez et préparée avec Amel Kaldi. Ce soir à la technique, Fabrice Desmazes.